إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، on continue donc la lecture du livre de l'imam Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala au sujet de la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous en sommes arrivés aujourd'hui au chapitre dans lequel l'auteur rahimahullahu ta'ala a abordé le sujet de la prière avec les chaussures. Il a dit rahimahullah, la prière avec les sandales aux pieds, c'est-à-dire avec les chaussures, et l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de le faire. Donc le fait de prier avec ses chaussures, cela fait partie des sunan qui sont délaissés chez beaucoup de musulmans, et ce à cause de leur ignorance de cette sunna, malgré qu'elle soit rapportée dans de nombreux hadiths, comme on va le voir inshallah ta'ala. Et leur ignorance de cette sunna est telle que certains vont même jusqu'à blâmer celui qui prie avec ses chaussures comme s'il était tombé dans une transgression religieuse, voire même dans un égarement, Wallahu al-musta'an. Alors que cette sunna, comme on l'a dit, elle est confirmée dans de nombreux hadiths. Et cela est recommandé, d'après la mise en pratique de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam de celle-ci. Les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, ont rapporté que Anas, radiyallahu ta'ala anhu, a été interrogé. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait avec ses chaussures? Il répondit oui. On voit donc que c'est une sunna confirmée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, il est important pour nous de savoir que cette sunna, elle a des conditions. Et parmi ces conditions, il y a premièrement le fait que tes chaussures soient pures. C'est-à-dire qu'il n'y ait aucune impureté sur la semelle de tes chaussures ou ailleurs. Et on va voir, inshallah, la preuve à ce sujet dans les hadiths que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné. La deuxième condition est qu'il n'y ait pas de nuisance en cela. À titre d'exemple, on voit qu'aujourd'hui, la grande majorité des mosquées ont le sol recouvert par des tapis. Et ces tapis, comme vous le savez, ils ont un coût qui est onéreux et ils ont été achetés avec l'argent des musulmans. De ce fait, il nous convient d'en prendre soin et de ne pas les abîmer. Ainsi, si les gens se mettaient à entrer dans les mosquées avec leurs chaussures, en marchant et en priant sur ces tapis, il n'y a pas de doute que ceci conduirait à la dégradation de ces tapis, que ce soit avec la terre qui entrerait, ou alors même l'humidité en cas de pluie, et ainsi de suite. D'autant plus avec le risque que des gens soient négligents et qu'ils ne tiennent pas compte de la propreté de leurs chaussures avant d'entrer. Donc dans ce cas, la nuisance est apparente, il convient donc aux musulmans, afin d'éviter ce méfait, de retirer ses chaussures avant d'entrer dans la mosquée. Un autre exemple de nuisance, c'est le fait qu'étant donné l'ignorance des gens de ton entourage, des gens de ton peuple, des gens qui sont autour de toi dans ta ville ou autre, qu'ils n'ont pas connaissance de cette sunna, et que pour eux, prier avec les chaussures, c'est une chose qui ne se fait pas. Et s'ils te voient prier avec tes chaussures, alors ils te blâmeront et fuiront de toi. Donc dans ce cas-là, il convient de prendre en considération cela, et de ne pas prier en chaussures devant eux avant de leur avoir enseigné cette sunna. Et ce n'est pas par cela que tu dois commencer. En effet, comme on le voit aujourd'hui, il y en a parmi les gens qui sont tombés dans des transgressions, certaines relevant du polythéisme, d'autres de l'innovation, d'autres des grands péchés, ou autres transgressions encore. Il est donc important dans le prêche de commencer par les choses les plus importantes. Donc il ne convient pas aux musulmans de faire fuir les gens de la sunna, de faire fuir les gens du tawhid, pour le simple fait de mettre en pratique la sunna de prier avec ses chaussures. Si tu as autour de toi des gens affiliés à l'islam, qui se rendent auprès des tombes pour les invoquer, ou qui recherchent la bénédiction en se frottant à celle-ci, il n'y a pas de doute que tu dois tout d'abord commencer par leur enseigner le tawhid, leur enseigner la sunna, et il ne convient pas de rentrer en discorde avec eux au sujet de la question de la prière avec les chaussures ou non. Et pas seulement avec cette sunna, mais avec d'autres sunan qui parfois peuvent être ignorés par certaines personnes, et de prendre en considération la connaissance ou l'ignorance des gens, et de faire en sorte de leur faire aimer ce prêche en commençant par les choses les plus importantes. On va donc lire les hadiths
que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné dans ce chapitre. Il a dit, rahimahullah, il priait parfois pieds nus et parfois ses sandales aux pieds. Donc, envoyez le mot sandales, comprendre chaussures de manière générale. Il priait parfois pieds nus ou parfois ses sandales aux pieds. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a permis à sa communauté en disant, quand l'un de vous prie, qu'il laisse ses sandales, ou bien qu'il les enlève, il les met entre ses pieds, afin qu'ils ne nuisent pas aux autres. Donc ces deux hadiths, ils nous prouvent qu'il est permis pour le musulman de prier avec ses chaussures. Mais que ceci n'est pas obligatoire. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait parfois sans ses chaussures. Et il a laissé le choix en disant, quand l'un de vous prie, qu'il laisse ses sandales, qu'il les garde, ou bien qu'il les enlève. Il dit ensuite, rahimahullah, il a insisté auprès de ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, pour qu'ils accomplissent parfois la prière avec leurs sandales, en disant, différenciez-vous des juifs, car eux ne prient pas avec leurs sandales, ni avec leurs khifaf. Les khifaf, c'est les chaussons, comme les chaussons en cuir que certaines personnes mettent, qui recouvrent le pied jusqu'aux chevilles. Ce hadith, il nous prouve qu'en plus d'être permis, la prière dans les chaussures est recommandée. Car ceci est une manière de se différencier des juifs qui, eux, ne prient pas avec leurs chaussures. S'il est recommandé de prier avec ses chaussures, est-il toutefois préférable de les mettre alors que tu ne les avais pas avant de prier? C'est-à-dire que si une personne était pieds nus, n'avait pas ses chaussures, est-il recommandé pour elle de mettre ses chaussures avant de prier? La réponse est ce qu'a mentionné le Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dans son livre « Le résumé de la description de la prière du prophète ». Sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il est préférable de prier parfois avec ses chaussures et parfois sans chaussures en fonction de ta situation. C'est-à-dire que tu ne dois pas mettre ou enlever tes chaussures exprès pour prier. Tu ne les mets pas volontairement pour prier, tu ne les enlèves pas volontairement pour prier. Si tu as tes chaussures, alors tu pries avec, et si tu ne les as pas, alors tu pries sans tes chaussures. Sauf si une chose te pousse à les mettre ou les enlever. À les enlever, si tu souhaites entrer dans la mosquée, comme on l'a dit, tu vas devoir enlever tes chaussures. Donc dans ce cas-là, tu les enlèves. Ou alors, il y a certaines personnes parfois qui ont des chaussures qui les gênent pour prier. Notamment lors de l'assise, ils préfèrent prier sans leurs chaussures. Certains modèles de chaussures qui sont gênants. Dans ce cas-là, il n'y a pas de mal à ce que la personne enlève ses chaussures pour prier afin que cela ne nuise pas à sa concentration. On a dit donc, sauf si une chose te pousse à les mettre ou à les enlever. À les mettre, par exemple, si tu étais en voyage en voiture et que tu avais retiré tes chaussures. Tu es donc pieds nus et tu t'arrêtes pour prier. Mais, par exemple, le sol est trop chaud, tu vas donc avoir besoin de mettre tes chaussures pour prier. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne même dans ce hadith, al-khifaf, les chaussons. Donc on voit à travers cela l'erreur que font certains responsables de mosquées en interdisant aux gens d'entrer prier avec leurs chaussettes. Et il n'y a pas de doute que ceci n'est pas légiféré et qu'il ne convient pas d'imposer cela aux fidèles de la mosquée. Il dit ensuite, rahimahullah, il est aussi arrivé qu'il les enlève pendant la prière et qu'il continue à prier, c'est-à-dire qu'il a enlevé ses chaussures pendant la prière. Comme l'a rapporté Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu. Un jour, alors que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dirigeait la prière, il a enlevé ses sandales et les a placées à sa gauche. Quand les gens ont vu cela, ils ont aussi enlevé leurs sandales. Lorsqu'il eut fini sa prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit « Qu'avez-vous enlevé vos sandales ?» Ils dirent « Nous t'avons vu enlever tes sandales, donc nous avons enlevé les nôtres. » Il dit « En vérité, Jibril est venu à moi et m'a informé qu'il y avait une saleté, où il dit quelque chose de nuisible, et dans une autre narration une impureté, sur mes sandales. Donc, je les ai enlevées. Quand l'un d'entre vous entre à la mosquée, qu'il regarde ses sandales. S'il y voit une saleté, où il a dit quelque chose de nuisible, dans une autre narration, un résidu. Le mot résidu ici, c'est le même mot qui a été employé qu'il a traduit au-dessus par une impureté. Et c'est ce qui est visé dans ce hadith. C'est s'il y voit une impureté. Qu'il les essuie et prie avec. Ce hadith, c'est donc une preuve qu'il est impératif pour celui qui souhaite prier avec ses chaussures, que ses chaussures soient pures. Et qu'il n'y ait sur celles-ci aucune impureté. Et on tire également comme bénéfice de celui-ci qu'il est obligatoire pour celui qui souhaite entrer dans la mosquée avec ses chaussures, qu'il veille à ce qu'elles ne contiennent aucune impureté. Et s'il voit sur celle-ci une impureté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors qu'il les essuie. C'est-à-dire que la purification des chaussures, elle se fait en les essuyant sur le sol pur. Si tu marches, par exemple, dans un endroit où il y avait une impureté, puis qu'ensuite tu continues de marcher sur un sol pur, alors ceci va purifier la semelle de tes chaussures, incha'Allah ta'ala. Et ce n'est pas une condition de les nettoyer avec de l'eau. On tire également comme bénéfice de ce hadith la permission de faire des mouvements dans la prière en cas de besoin. Comme ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a enlevé ses chaussures pendant sa prière. Et le besoin était que ses chaussures comportaient sur elles une impureté. Également on tire comme bénéfice de ce hadith la ferveur qu'avaient les compagnons radiyallahu ta'ala anhum dans le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont vu enlever ses chaussures, ils ont fait de même. Immédiatement. Mettant ainsi en pratique la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez certes dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Donc les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ils s'empressaient de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sans aucune hésitation. Regardez, s'ils l'ont vu enlever ses chaussures, ils l'ont fait de même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Priez comme vous m'avez vu prier ». Alors, ils le voient enlever ses chaussures, ils enlèvent aussi leurs chaussures. Et ceci nous montre l'importance du suivi de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Également, on tire comme bénéfice de ce hadith que l'imam ou celui qui prie seul et souhaite enlever ses chaussures, alors il les place à sa gauche comme l'a fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et on va voir dans le hadith suivant où les place celui qui prie en groupe et qui a une personne à sa gauche. Il dit, rahimahullah, lorsqu'il les enlevait, il les posait sur sa gauche. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il enlevait ses chaussures, il les posait sur sa gauche. Et il disait, quand l'un d'entre vous prie, qu'il ne mette pas ses sandales sur sa droite. Donc, il n'est pas permis de les mettre sur la droite. Ni sur sa gauche, afin qu'elle ne soit pas à la droite de quelqu'un. C'est-à-dire que si tu pries en commun et qu'il y a quelqu'un à ta gauche, tu ne dois pas mettre tes chaussures à ta gauche, car sinon, elles seront à droite de ton voisin. Il dit ensuite, sauf s'il n'y a personne sur sa gauche. S'il n'y a personne sur ta gauche, il t'est permis de les mettre à ta gauche. Et s'il y a quelqu'un, qu'il les place donc entre ses pieds. C'est-à-dire que tu les poses au sol, entre tes deux pieds. Donc, les chaussures en prière, soit elles sont portées, c'est-à-dire que tu pries avec, soit elles sont à ta gauche, si tu pries seul, ou que tu es imam, soit elles sont entre tes pieds, si tu pries en groupe, et qu'il y a une personne à ta gauche. Ceci sont les trois endroits où peuvent se trouver les chaussures durant la prière. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a intitulé le chapitre suivant « La prière sur la chair », c'est-à-dire la prière sur le minbar. Et il a dit, rahimahullah, une fois, il a prié sur la chair, et dans une version qui avait trois marches. Ceci nous indique la taille légiférée du minbar, telle que l'était celui du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui avait trois marches. Il a dit, rahimahullah, il est monté dessus et a prononcé le takbir. Donc ici, il est monté dessus. En réalité, ce qui est dit, c'est il s'est mis debout dessus. Il s'est mis debout dessus et a prononcé le takbir. Et les gens derrière lui ont fait de même. C'est-à-dire qu'ils ont prononcé le takbir aussi. Alors qu'il était sur la chair. Il était debout sur le minbar. Puis il s'est incliné sur la chair. C'est-à-dire qu'il a fait l'inclinaison tout en étant encore sur le minbar. Ensuite, il s'est levé, c'est-à-dire il s'est relevé de l'inclinaison, et est descendu à reculons pour se prosterner au pied de la chair. C'est-à-dire qu'il a fait quelques pas en arrière, tout en gardant son visage orienté vers la Qibla. Et il est descendu du minbar, afin de se prosterner au sol. Ensuite, il dit, rahimahullah, il est alors remonté sur la chair et a fait comme il avait fait pour la première raka'a. C'est-à-dire qu'il a fait de même le restant de la prière. Après le sujoud, il est remonté sur le minbar, s'est mis debout, puis s'est incliné sur le minbar, et ensuite redescendu pour la prosternation. Jusqu'à ce qu'il ait achevé sa prière. Il s'est alors tourné vers les gens et a dit, « Oh, vous les gens, j'ai fait cela pour que vous puissiez me suivre et apprendre ma prière. » Donc on tire de ce hadith de nombreux bénéfices. Parmi ces bénéfices, premièrement, il y a le fait qu'il est permis de prier sur un endroit surélevé, et ce dans le but d'être vu afin d'enseigner la prière aux gens. Et ceci nous montre l'importance que donnait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à l'enseignement de la prière à ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Il est donc permis pour une personne de se mettre sur un endroit surélevé afin d'être vu par les gens et de prier pour montrer aux gens la manière correcte de prier. Et ceci nous prouve également qu'il est permis d'accomplir une prière afin d'enseigner la manière correcte de prier aux gens. Et la prière est valide. Si tu souhaites montrer à une personne comment prier, alors il est permis que tu lui dises « Je vais faire 2 unités de prière et regarde comment je fais. » Et c'est ainsi qu'il faut prier. Et il n'y a pas de mal en cela. Et la prière est valide, inshallah ta'ala. Et ce, de la même manière qu'a fait Uthman, radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il a enseigné les ablutions. Il a pris de l'eau et a fait les ablutions devant les gens afin de leur montrer. Et leur a dit, c'est ainsi que faisait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a donc pas de mal en cela, car l'objectif est d'enseigner aux gens la manière correcte de faire. Deuxièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith la permission de faire des mouvements en cas de besoin, tout en restant en prière. Comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici. Il est monté sur le minbar afin que les gens le voient prier. Et pour se prosterner, il devait descendre du minbar. Il a donc fait quelques pas en arrière. Et il est descendu avec quiétude, tout en gardant son visage orienté vers la Qibla, puis il s'est prosterné sur le sol. Et après cela, il est remonté sur le minbar. Le troisième bénéfice que l'on tire de ce hadith, c'est la permission de regarder l'imam pendant la prière. Comme on va le voir, il est légiféré pour celui qui prie de regarder l'endroit où il se prosterne. Toutefois, on voit à travers ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le minbar afin que les gens le voient prier. On comprend donc que les compagnons radiyallahu ta'ala anhum le regardaient lorsqu'ils priaient, alors qu'ils étaient aussi en prière. Il n'y a donc pas de mal pour le fidèle à regarder l'imam pendant la prière, notamment s'il veut le suivre, et s'assurer qu'il s'est bien incliné ou qu'il s'est bien prosterné avant de se prosterner à son tour. En effet, on voit dans certaines mosquées qu'il y a des imams, notamment à cause de l'utilisation des microphones, qui vont prononcer le takbir alors qu'ils sont encore debout, avant l'inclinaison ou avant la prosternation. Alors il dit « Allahu Akbar » et les gens derrière lui s'empressent de s'incliner ou se prosterner au point de parfois le devancer. Il est interdit de devancer l'imam dans la prière. Donc dans ce cas-là, le prieur le regarde afin de s'assurer qu'il s'est bien incliné ou bien prosterné, afin de s'incliner, de se prosterner à son tour, et ne pas le devancer. Et également, on tire comme bénéfice de ce hadith, comme on l'a vu, la hauteur légiférée du minbar. Et qu'il convient que ce minbar soit de 3 marches. Et ce, afin de ne pas couper les rangs, comme on le voit aujourd'hui dans de nombreuses mosquées, où le minbar est très élevé, au point de prendre 1, 2, ou voire plus encore, parmi les rangs de prière. Et ceci est contraire à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh Al-Albani, rahimahullahu ta'ala, l'a d'ailleurs mentionné en note, dans la note 4, en bas de page 65, comme vous pouvez le voir. Il a dit, rahimahullah, la sunna pour la chair, c'est-à-dire pour le minbar, est qu'elle est 3 marches, pas une de plus. Rajouter des marches est une innovation qui date du temps des Omeyyades. Cela coupe le plus souvent le premier rang. Et éviter cela en mettant la chair. Il dit donc, si on veut éviter de couper le rang, il y en a certains, ils vont mettre la chair dans le coin ouest de la mosquée, dans un coin de la mosquée. Ou alors, ils vont le mettre dans le mihrab. Il dit, et ceci aussi est une innovation. Il dit de même que construire une tribune en forme de corbeille dans le mur sud à une certaine hauteur à laquelle on accède par une échelle scellée dans le mur. En forme de corbeille, ici le cheikh il dit, en forme de balcon. Comme un balcon en fait, comme vous le voyez dans certaines mosquées. Il y en a certains qui font une sorte de petit balcon dans le mur de la mosquée dans lequel l'imam monte avec une échelle ou avec des escaliers qui sont dans le mur. Le Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, nous dit, ceci aussi est une innovation. Et la meilleure guidée est la guidée de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a mentionné un chapitre important au sujet de l'obligation de la sutra. Donc la sutra, c'est la chose que tu prends devant toi au moment de la prière afin d'empêcher que quelqu'un passe devant toi. Et les savants ont divergé concernant le jugement de la sutra. La majorité des gens de science considère que la sutra n'est pas obligatoire, mais qu'elle est fortement recommandée, et qu'il ne convient pas de la délaisser. Et l'avis le plus juste est celui qu'a soutenu l'auteur ici, rahimahullah ta'ala, étant que la sutra est obligatoire, et ce d'après l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on va le voir dans le hadith. Et si la personne prie sans sutra, quel est le jugement de sa prière? La réponse est que sa prière est valide. Toutefois, elle est dans le péché, et sa récompense est diminuée, car elle a délaissé une chose obligatoire. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné plusieurs hadiths au sujet de la sutra. Il a dit, rahimahullah, il se mettait debout à proximité de la sutra. Et il y avait entre lui et le mur une distance de 3 coudées. Donc une coudée, c'est la distance qu'il y a entre l'extrémité de tes doigts et ton coude. Ceci représente une coudée. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, lorsqu'il était debout, il y avait entre lui et sa sutra une distance de 3 coudées. 3 fois la distance de l'extrémité de tes doigts jusqu'à ton coude. Il dit ensuite, rahimahullah, entre le lieu de sa prosternation et le mur, il y avait assez d'espace pour que puisse passer un mouton. C'est-à-dire que lorsqu'il était prosterné, il n'avait pas la tête collée à sa sutra comme le font certaines personnes. Mais il y avait assez d'espace pour le passage d'un mouton. Donc, lorsque tu es debout, il convient qu'il y ait entre toi et ta sutra environ 3 coudées. Et lorsque tu es prosterné, assez d'espace pour le passage d'un mouton. Il dit ensuite, rahimahullah, il disait, ne prie qu'en direction d'une sutra. Donc ceci nous montre l'obligation. Car ici, c'est un ordre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ne prie qu'en direction d'une sutra. Et ne laisse personne passer devant toi. C'est-à-dire, entre toi et ta sutra. Et ceci également est une obligation. Que tu ne laisses passer personne devant toi pendant la prière. Et si la personne refuse, empêche-la de passer, car il a un compagnon, c'est-à-dire un diable avec lui. Comme cela est venu, très clairement, dans la version de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, qui a rapporté, car il a un diable avec lui. Donc il est obligatoire pour le musulman, lorsqu'il prie, de prendre une sutra. Et si quelqu'un tente de passer entre lui et sa sutra, alors il doit en l'empêcher, et on verra plus de détails à ce sujet dans les derniers hadiths que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné. Il disait aussi, quand l'un d'entre vous prie en direction d'une sutra, qu'il s'en approche afin que le diable ne puisse pas couper sa prière. Donc on voit dans ce hadith tout d'abord l'obligation d'être proche de la sutra. Comme on a dit, une distance de 3 coudées. Car certaines personnes des fois qui s'éloignent de la sutra, ou dans certaines mosquées qui se mettent à 2 rangs du mur par exemple, et qui te disent c'est bon, il y a le mur, tu as une sutra. Na'am. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de s'approcher de la sutra. Et on a vu dans le premier hadith qu'il se mettait debout à proximité de sa sutra, à une distance de 3 coudées. Qu'il s'en approche afin que le diable ne puisse pas couper sa prière. Ici, le traducteur a mis en note de bas de page pour couper sa prière. Il a expliqué cela en disant, c'est-à-dire passer entre la personne et la sutra, afin que le diable ne puisse pas passer entre la personne et la sutra. Et ceci est une explication qui est incomplète en réalité. Car les savants ont expliqué que ce qui est visé par le fait de couper la prière ici, c'est qu'il l'interrompe dans sa concentration. Car s'il n'a pas de sutra, et que des gens passent devant lui, alors il serait perturbé par le fait que des personnes passent devant lui, au point peut-être de ne plus savoir où il en est dans sa prière. Et il n'y en a pas de doute que s'il en est ainsi, alors il perdra une part de la récompense de sa prière, de par son manque de concentration. Et certains ont même expliqué que la sutra, elle empêche le diable de venir perturber le prieur. C'est-à-dire que si le prieur ne prend pas de sutra, alors le diable peut venir le perturber et lui faire perdre ainsi sa concentration par les insufflations ou autres. Ceci est donc le sens du mot coupé dans ce hadith. Ensuite, il dit, rahimahullah, parfois, il s'efforçait de prier derrière un des piliers de sa mosquée. C'est-à-dire qu'il cherchait à prier derrière le pilier spécifiquement. Et c'est dans le but d'avoir une sutra. On voit à travers cela qu'il est permis de prendre un pilier comme sutra. Également, il est permis de prendre un mur. Il est permis de prendre une personne, comme on va le voir, une branche, une canne, un arbre, ou tout autre objet faisant la taille nécessaire pour servir de sutra. Et les savants ont mentionné que la sutra, elle devait être d'une hauteur d'un ou deux empans environ. Et l'empan, c'est la distance qu'il y a entre l'extrémité de ton pouce et de ton auriculaire lorsque tu as la main ouverte. Donc tu ouvres ta main en écartant tes doigts et tu regardes la distance qu'il y a entre l'extrémité de ton pouce et l'extrémité de ton auriculaire. Ceci est un empan. Donc la sutra, elle doit être environ d'un ou deux empans en termes de hauteur. Et certains savants ont dit 2/3 d'une coudée ou une coudée. Donc si tu prends une coudée, tu es sûr d'avoir atteint la taille nécessaire légiférée. Quant à sa largeur, il n'y a pas de chose mentionnée à ce sujet. Même si elle est fine, comme une lance, par exemple, ou un bâton, alors cela est suffisant, inshallah ta'ala. Et si tu prends une chaise en sutra, ce n'est pas une condition que tu sois en direction des pieds de la chaise. À partir du moment où la chaise est devant toi, cela est suffisant et cela fait office de sutra. Ensuite, il dit, rahimahullah, lorsqu'il priait dans un endroit désert où il n'y avait rien qu'il puisse utiliser comme sutra, il plantait une lance dans la terre devant lui et priait en direction de celle-ci avec les gens derrière lui. Donc si tu es dehors et qu'il n'y a rien pour prendre en guise de sutra, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de rocher ni d'arbre, alors il est permis que tu prennes un bâton ou autre et que tu le plantes dans le sol afin de t'en servir de sutra. Il dit, rahimahullah, parfois il mettait sa monture présentée de côté devant lui et priait dans sa direction. C'est-à-dire qu'il la mettait devant lui, sur le côté, et priait en direction de la monture. Par exemple, si tu es en voiture, tu peux garer la voiture afin qu'elle te serve de sutra, inshallah ta'ala. Il dit, mais ceci est différent de la prière dans le parc à chameaux, car il a interdit de prier derrière les chameaux. Donc le parc à chameaux, ce qui est visé ici, c'est l'enclos à chameaux. Et ici, le traducteur a mis, car il a interdit de prier derrière les chameaux. Et ceci est une erreur. Ce que l'auteur a dit, rahimahullah ta'ala, c'est, car il a interdit d'y prier, c'est-à-dire dans l'enclos des chameaux. Car il est venu un hadith dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit de prier dans l'enclos des chameaux. Ensuite, il dit, rahimahullah, parfois, il prenait sa selle, la mettait en long et priait vers l'arrière de la selle, c'est-à-dire en direction de l'arrière de la selle. Et il disait, si l'un d'entre vous place devant lui quelque chose, haut comme le bâton qui se trouve à l'arrière d'une selle, qu'il prie et ne se soucie pas de celui qui passe au-delà de cela. Donc c'est à partir de ce hadith que les gens de science ont défini la hauteur minimum légiférée de la sutra. Et ils ont dit qu'elle doit être de l'équivalent du bâton qui se trouve à l'arrière d'une selle. C'est-à-dire sur une selle de chameau. Si vous regardez, il y a deux bâtons, un devant, un derrière, sur lequel va s'adosser celui qui est sur le chameau. Et ce bâton, il fait environ la taille d'un ou deux empans, ou voire une coudée. On voit donc que cette délimitation, ce n'est pas une délimitation qui est précise, car ce bâton-là, il peut varier quelque peu d'une selle à une autre. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, une fois, il a prié en direction d'un arbre. Donc cela nous montre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a déjà pris un arbre en guise de sutra. Parfois, il priait en direction du lit sur lequel Aïcha, radiyallahu ta'ala, anha, était couché sous sa couverture. Donc ce hadith, il nous montre qu'il n'y a pas de mal à prier derrière son épouse en guise de sutra s'il n'y a pas en cela de tentation. Il n'y a pas de gêne en cela car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a pratiqué comme on le voit dans ce hadith. Et ceci est différent du fait que la femme passe entre la personne et la sutra. Comme on va le voir dans le chapitre suivant, si une femme pubère passe entre le prieur et sa sutra, alors la prière est annulée. Par contre, il est permis à l'homme de prendre son épouse en guise de sutra et de prier derrière elle, qu'elle soit couchée dans le lit ou assise. Il n'y a pas de mal en cela. Ensuite, il a dit, rahimahullah, il ne laissait rien passer entre lui et sa sutra, au point où une fois, il priait quand une brebis est venue courant vers lui. Il l'a devancée et est venue coller son ventre contre le mur et la brebis est passée derrière lui. Donc on voit à travers ce hadith qu'il ne convient pas pour le prieur de laisser passer quoi que ce soit entre lui et sa sutra. Même si c'est un animal, comme on le voit à travers ce hadith. Ou même si c'est un enfant en bas âge qui ne comprend pas encore les choses. Car certaines personnes, qui lorsqu'ils voient un enfant qui n'a pas atteint l'âge du discernement, ils le laissent passer, ils se disent, ce n'est pas grave, il est petit, il ne comprend pas. Regarde ici le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas laissé passer une brebis, un animal qui n'est pas doué de raison. Il s'est avancé jusqu'à sa sutra afin que la brebis passe derrière lui. Donc, s'il y a un enfant en bas âge qui essaye de passer entre toi et ta sutra alors que tu es en prière, dans ce cas-là, tu l'empêches de passer, mais si tu crains qu'il pleure, car il ne comprend pas que tu l'empêches de passer, alors tu t'avances jusqu'à ta sutra afin qu'il passe derrière toi. On voit également à travers ce hadith une autre preuve de la permission de faire quelques pas pendant la prière. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est avancé jusqu'à ce que son ventre soit collé au mur, qu'il soit collé à sa sutra. Puis ensuite, il s'est remis à sa place et a continué de prier. Il dit ensuite, rahimahullah, un jour, alors qu'il accomplissait une prière obligatoire, il serra le poing. Lorsqu'il eut fini, les gens demandèrent, ô messager d'Allah, S'est-il passé quelque chose pendant la prière? Il dit, non, sauf que le diable a voulu passer devant moi. Donc je l'ai étranglé, au point que j'ai pu sentir la froideur de sa langue sur ma main. Par Allah, si mon frère Suleyman ne m'avait pas précédé en cela, je l'aurais attaché, c'est-à-dire le diable, à un des piliers de la mosquée, afin que les enfants de Médine puissent le faire tourner autour de lui. Ainsi, quiconque peut empêcher que quelque chose ne s'interpose entre lui et la Qibla, qu'il le fasse. Donc on voit à travers ce hadith l'obligation de s'interposer entre toute chose qui voudrait passer entre toi et ta sutra lorsque tu pries. Ensuite, il dit, rahimahullah, il disait aussi, quand l'un d'entre vous prie en direction d'une chose qui le protège des gens, c'est-à-dire en direction d'une sutra, et que quelqu'un veut passer devant lui, qu'il le pousse au niveau de la gorge, et le repousse autant qu'il peut, et dans une narration, qu'il l'empêche deux fois, et s'il refuse, alors qu'il résiste, car en vérité c'est un diable. Donc ici le mot résiste, en réalité c'est alors qu'il le combatte. Et ce qui est visé par le combat ici, c'est de le repousser avec force. C'est-à-dire que tout d'abord tu commences à le pousser doucement pour lui indiquer que tu ne veux pas qu'il passe, tu le repousses une deuxième fois, et la troisième fois tu le repousses avec plus de force. Il disait aussi, si celui qui passe devant les prieurs savait ce qu'il encourt, il préférerait attendre 40 plutôt que de passer. Abu Nadr a dit, je ne me souviens pas exactement s'il a dit 40 jours, mois ou années. Donc ce hadith, c'est une preuve de l'interdiction de passer entre le prieur et sa sutra. Car comme on le voit, il y a dans ce hadith une menace. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que si on savait ce qu'il y a en cela, c'est-à-dire en termes de gravité, alors tu préférerais attendre 40. Et le rapporteur ne sait pas si c'est 40 jours, 40 mois ou 40 années. Mais quoi qu'il en soit, même si ce n'est que 40 jours, si tu savais la gravité de cet acte, tu préférerais rester 40 jours à attendre qu'il termine de prier. Alors que dire de quelques instants? Tu patientes quelques instants le temps qu'il finisse sa prière, puis ensuite, tu passes si tu n'as pas d'autre possibilité de passer. Et si une personne prie sans sutra, est-ce qu'il est permis pour nous de passer devant elle? La réponse est que tu ne dois pas passer devant elle à hauteur de la distance qui équivaut à la distance d'une sutra, c'est-à-dire un peu plus de 3 coudées. Tu ne dois pas marcher devant elle à cette distance. Au-delà de cela, alors, il n'y a pas de mal à passer, incha'Allah ta'ala. Et si tu peux passer derrière elle, alors, cela est préférable. Une autre question, liée à la sutra, et elle concerne le retardataire, lors de la prière en commun. Donc on a dit que la sutra, c'est une obligation. Mais c'est une obligation pour qui? Est-ce que c'est une obligation pour tout prieur? La réponse est que c'est une obligation pour celui qui prie seul, et pour l'imam, lors de la prière en commun. Quant à celui qui prie derrière l'imam, alors sa sutra est la sutra de l'imam. Il n'a pas besoin de prendre de sutra devant lui. Toutefois, lorsque tu es en retard et que tu as loupé, par exemple, une ou deux raka'a lors de la prière en commun, une fois que l'imam aura salué, tu vas te relever pour terminer ta prière. Et est-ce qu'à ce moment-là, il t'est permis de te déplacer afin de prendre une sutra? La réponse, tout d'abord, est qu'il n'y a aucun texte rapporté à ce sujet. C'est-à-dire que rien ne nous indique que les compagnons, par exemple, radiyallahu ta'ala anhum, lorsqu'ils étaient en retard à la prière en commun, se déplaçaient après la prière pour prendre une sutra. Il n'y a donc aucune preuve textuelle à ce sujet. À partir de cela, certains parmi les gens de science ont mentionné qu'il n'était pas légiféré de se déplacer, et que le prieur termine sa prière à sa place sans s'avancer ou se reculer vers une sutra. D'autres savants ont mentionné que cela dépend de la situation. Si par exemple, tu es positionné à un endroit de la mosquée où personne ne risque de passer devant toi, alors dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire que tu changes de place pour prendre une sutra, car il n'y a pas de risque que tu sois perturbé dans ta prière. Et tu termines ta prière ainsi, à la place où tu étais lors de la prière en commun. Mais si tu étais au milieu de la mosquée par exemple, et que tu sais que dans cette mosquée, les gens ne prêtent pas attention à l'interdiction de passer devant le prieur, et qu'il t'est possible, en faisant un ou deux pas, de t'approcher d'une sutra, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de mal à ce que tu te déplaces afin de t'approcher de la sutra, et afin d'éviter d'être perturbé par ceux qui se lèveront pour sortir de la mosquée. Mais tu dois prendre garde à ne pas faire comme le font certaines personnes, à se déplacer sans raison. Parfois, il y a encore quelqu'un assis devant lui en train de faire ses adhkars après la prière. Il change de place, il recule. J'ai même vu dans certaines mosquées des retardataires, à la fin de la prière, se passer les uns devant les autres, parce qu'ils changeaient de place. D'autres accomplir de grandes distances. Et ceci n'est pas légiféré. Il ne convient pas que tu accomplisses un nombre de pas te faisant sortir de ton attitude de prieur. C'est-à-dire que lorsque l'on te regarde, on doit savoir que tu es en prière. Mais si tu te déplaces 15 mètres devant toi, se peut que quelqu'un passe à côté de toi et te salue et ne sache pas que tu es en prière. Donc il est permis de se déplacer de quelques pas, comme on l'a vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se déplaçait jusqu'à sa sutra. On voit donc la permission de faire ce nombre de pas. Donc s'il y a un besoin et que tu crains que des gens passent devant toi, il n'y a pas de mal à ce que tu t'avances ou tu te recules d'un ou deux pas afin de prendre une sutra à la fin de ta prière. Et le Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala a été interrogé concernant le fait que le retardataire place directement quelque chose devant lui afin que cela lui serve de sutra après la prière en commun lorsqu'il se lèvera pour rattraper ses unités manquées. Et il a dit rahimahullah ta'ala qu'il n'y avait pas de mal en cela, inshallah ta'ala. Notamment si tu crains d'être perturbé dans ta prière et que tu sais que tu ne pourras pas t'avancer vers une sutra. Certaines personnes demandent aussi, s'il y a quelqu'un qui prie derrière moi, suis-je obligé d'attendre qu'il termine afin de me lever pour partir? La réponse est que cela n'est pas obligatoire. Toutefois, si tu n'es pas pressé et que tu sais que si tu te lèves, alors des gens risquent de passer devant lui. Dans ce cas, c'est une bonne chose que tu restes assis et que tu patientes jusqu'à ce qu'il termine sa prière. Mais si tu es pressé et que tu as une chose urgente à faire, alors ceci ne t'incombe pas et tu n'as pas de péché en cela, inshallah ta'ala. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné un chapitre sur ce qui coupe la prière, c'est-à-dire ce qui l'annule. Il a dit rahimahullah, ce qui annule, littéralement ce qui coupe, la prière. Il disait, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la prière d'une personne est annulée si elle ne pose rien devant elle de la hauteur de l'arrière d'une selle, par le passage d'une femme qui a ses menstrues, d'un âne et d'un chien noir. Abu Dharr, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, je demandais, ô messager d'Allah, pourquoi le chien noir plutôt que le brun? Il dit, le chien noir est un diable. Donc on voit à travers ce hadith que la base pour la personne est qu'elle doit placer devant elle une sutra lors de la prière. Mais si elle ne place rien devant elle, ou alors qu'une des trois choses mentionnées dans le hadith passe entre elle et sa sutra, alors sa prière est annulée. Et elle doit la recommencer. Ce qui est visé par la femme qui a ses menstrues, c'est-à-dire la femme pubère, l'âne et le chien noir. Si un de ces trois-là passe entre toi et ta sutra, ou passe devant toi en prière alors que tu n'as pas de sutra, alors ta prière est annulée et tu dois la recommencer. Et ceci est valable en tout lieu, même dans les grandes mosquées et même dans les deux mosquées sacrées. Et ceci est une précision importante, notamment à Mecca. Il y a certaines personnes qui prient dans l'enceinte de la mosquée sacrée, dans le mataf, là où les gens font le tawaf. Que ce soit des prières surérogatoires ou alors des unités de prière qu'ils rattrapent s'ils étaient en retard. Et comme vous le savez, dans la mosquée sacrée de la Mecque, il y a des hommes et des femmes. Et les gens font le tawaf autour de la Kaaba. Il y a parfois du monde. Donc tout d'abord, la personne, elle doit veiller à prier dans un lieu dans lequel les gens ne circulent pas. Ne pas faire comme le font certains, à prier dans les allées ou autres. Et si malgré ça, au moment où tu pries, il y a une femme qui passe devant toi, alors tu dois savoir que ta prière est annulée et que tu dois la recommencer. Même si tu es dans la mosquée sacrée de la Mecque ou en tout autre endroit. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Inch'Allah ta'ala, on continuera la lecture la semaine prochaine. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم